L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Mardi 8 juillet, l'Assemblée nationale a voté une loi particulièrement contestée avec 316 députés qui ont voté pour, 223 contre et 25 abstentions. La loi Duplomb vise à alléger les contraintes des agriculteurs, contraintes environnementales et administratives en particulier. Cette loi est envisagée comme une réponse à la colère des agriculteurs qu'on entend ces dernières années. Mais la gauche, les écologistes et les défenseurs de l'environnement fustigent une loi mortifère, un retour en arrière sur le plan écologique et un scandale sanitaire en raison notamment de la réhabilitation de l'acétamipride. Surtout, des éleveurs et agriculteurs font eux-mêmes entendre leur voix contre cette loi. Mathieu Courgeot, éleveur et coprésident du collectif Nourrir, a tenu par exemple les propos suivants. Alors que les agriculteurs et les citoyens appellent de leur vœu à une transition de notre système agricole et alimentaire, cette loi est à contre-courant de l'histoire, des réalités scientifiques et des attentes de la société. Fin de citation. Alors qu'en est-il? Pourquoi cette loi semble-t-elle vitale à la majorité de l'Assemblée nationale? Qui la réclame et constitue-t-elle un danger pour l'environnement et la santé? On en parle avec Éric Martineau, député MoDem au sein du groupe Les Démocrates, député de la 3e circonscription de la Sarthe. Bonjour Éric Martineau.
Bonjour.
Vous avez voté pour cette loi du plomb. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des compromis sur la transition écologique et la sécurité, en tout cas la santé du consommateur, pour le bien de la production française?
Non. Alors merci d'abord pour l'invitation, parce que vous êtes un des rares justement à nous donner la parole pour pouvoir s'exprimer sur les raisons aussi de ce vote. Non, parce que je tiens à rappeler quand même qu'on a mis en place quand même depuis un petit bout de temps tout un tas de mesures et d'interdictions pour justement limiter par exemple les pesticides. Hein. Si vous regardez la liste depuis 2017, vous avez 97% des produits qui ont disparu, qui ont été supprimés de l'index phytosanitaire. Et c'est tant mieux, on va pas regretter. Et puis ce que je regrette par rapport à cette loi Duplomb, j'aime pas dire ce nom, parce que justement, dès qu'elle a été déposée au Sénat, je vous cache pas que la première version était franchement imbuvable, je le dis très honnêtement, et même au sein de l'agriculture, on disait qu'on ne pourrait pas voter ce truc, c'était pas possible. Par contre, ce qui a été oublié, c'est qu'elle a été toute modifiée en commission de développement durable, elle a été modifiée aussi en commission des affaires économiques, auquel Marc Fesneau m'avait demandé d'aller siéger justement pour défendre les intérêts de l'agriculture au sens général. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, que dans cette loi, les agriculteurs qui ne respectent pas, par exemple, les végétaux, qui a auparavant été condamné à 15 000 euros d'amende, dans cette loi, ça sera dorénavant 150 000 euros. Donc quand on me dit que c'est une loi contre l'environnement, ça dépend de quel côté vous vous placez.
Alors, on va revenir sur certains points. D'abord, ouais. J'aimerais qu'on sache quelles sont les mesures de cette loi qui, pour vous, ont semblé essentielles pour l'agriculture française.
Alors, cette loi, pour moi, c'était une loi fourre-tout. Hein, je vous promets, au début, on l'a. Donc, il n'y avait pas vraiment une trame, puisque ça s'attaque aussi bien à ce qu'on appelle les surfaces des bâtiments, les normes normatives justement sur les élevages, sur le stockage de l'eau. Il y avait même, dans la première version de cette loi, il y avait le problème des zones humides, mais que nous, on a écarté. Il y avait aussi la remise en cause de l'OFB, mais l'OFB, non, a bien été maintenu dans son état actuel, donc l'Office français de la biodiversité, pardon.
Avec une tutelle, voilà. Quand même.
Oui, alors ça, la tutelle
de la préfecture,
alors qu'auparavant, c'était directement sous le ministère de la Transition écologique. Ça, c'est vrai. Mais c'était demandé aussi par beaucoup de gens, parce que vous voyez, j'ai fait une journée y compris les agents de l'OFB. C'est vrai que pour eux, ils vivent un métier qui n'est pas facile, parce que ce sont les policiers de l'environnement. J'ai vécu une journée avec eux, donc la semaine dernière, sur le terrain. Et ils sont toujours mal vus, et ce qui n'est pas normal ni logique, étant donné qu'ils font un vrai boulot de défense de l'environnement. Et le fait que ce soit sous la tutelle, on va dire, du préfet, pour moi, au moins, vous avez un interlocuteur local. Ce qui changera sûrement, et je l'ai fait, on l'a vu lors de ma mission de contrôle sur les contrôles en agriculture, eh bien, le préfet pourra... Je ne veux pas dire intervenir, mais s'il y avait vraiment un problème, mais uniquement dans certains cas. Parce que dès que vous allez faire un signalement, par exemple, au procureur de la République, il y a bien séparation des pouvoirs entre la justice et l'exécutif. Le procureur pourra diligenter une enquête chez un agriculteur, même s'il y a la tutelle du préfet. Là, il y a séparation des pouvoirs. Donc, Si vous me demandez, moi, dans cette loi, il y aura beaucoup de déceptifs de la part des agriculteurs. Je suis même un peu en colère quand j'entends certains syndicats, donc je ne nommerai pas, qui disent c'est une victoire. Non, il n'y a pas de victoire à avoir. C'est un état des lieux de ce qui ne marchait pas avant et de ce qui, dans un souci de pragmatisme, doit améliorer les conditions de travail des agriculteurs.
Alors, Martineau, on va quand même venir sur le point le plus clivant de cette loi.
L'acétamipride.
Exactement, la réautorisation de l'acétamipride, cet insecticide de la famille des néocotinoïdes, interdit depuis 2018 en France. Il pourra être réintroduit sur dérogation avec un contrôle au bout de 3 ans, puis tous les ans. C'était vraiment pas possible de s'en passer, Eric Martineau, de cet acétamipride.
Alors, vous oubliez de dire une chose, il va pouvoir être possible de le réintroduire sur dérogation à condition que ça mette une filière en danger. C'est quand même pas n'importe quelle condition. Donc, si bien que si on fait croire aux agriculteurs qu'ils vont pouvoir traiter avec l'acétamipride en 2026, ça veut dire qu'il faudra prouver qu'en 2025-2024, vous n'avez pas pu l'utiliser. Et parce que vous ne l'avez pas utilisé, votre filière, votre production est menacée d'extinction.
On comprend que ça puisse sauver des cultures, mais n'empêche, il faut rappeler que cet insecticide, il est non seulement mortel pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs, mais il est également dangereux pour la santé humaine. La substance persiste dans l'organisme humain et peut traverser le placenta, atteindre donc les bébés. Les conséquences peuvent être diverses, ça peut aller de la malformation cardiaque aux troubles du système nerveux. Pourquoi prendre un risque pareil, Eric Martineau? Est-ce qu'il faut vraiment assurer la production au risque de produire une alimentation qui ne soit pas saine pour le consommateur?
Alors moi, je vais poser dans ce cas-là une autre question, et c'est vrai que ce n'est pas vous qui allez répondre, parce que ce n'est pas vous qui a été interviewé, mais qui donne les autorisations des insecticides? Parce que je sais que cet insecticide fait la polémique. Je tiens à rappeler que je suis moi-même agriculteur et aussi en agriculture biologique. Donc vous dire que l'acétamipride est un bon insecticide, je ne dirais pas ça. Mais par contre, je dis bien que je ne suis qu'un agriculteur. C'est-à-dire que replaçons aussi les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que oui, cet insecticide fait polémique. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle que de celui-là. Je ne suis pas venu pour vous parler des autres. Parce que posez-vous la question, depuis 2018, qu'est-ce qu'on a fait? Cet insecticide a été remplacé par des autres insecticides. On n'a pas attendu qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ans. Depuis 7 ans, il y a eu autre chose. Ce autre chose, est-ce qu'il est meilleur, moins toxique, plus toxique que l'acétamipride? Je vous invite à aller regarder, y compris les auditeurs, voir comment sont traitées les cultures avec certains pesticides autres que l'acétamipride. Et ce que je veux revenir, c'est que l'acétamipride, elle a été homologuée par l'EFSA. L'EFSA, c'est l'Agence de sécurité alimentaire et des aliments au niveau européen. Vous avez 27 pays dans l'Europe. Il y a un seul pays qui a interdit l'acétamipride en 2018. Et ce n'est pas les scientifiques qui l'ont interdit, mais les politiques. Et l'ANSES, c'est très technique, l'ANSES, c'est l'agence française qui, elle, donne l'autorisation pour les produits commerciaux. Aujourd'hui, l'ANSES, en 2018, n'a pas dit qu'il fallait interdire l'acétamipride. Aujourd'hui, là, on a voté la loi. Maintenant, l'ANSES doit devoir se prononcer. Est-ce qu'en 2026, elle pourra autoriser ou non l'acétamipride? Ça, c'est pas aux politiques de le faire.
Il n'y a pas d'interdiction formelle, effectivement, mais n'empêche qu'il y a de nombreuses études scientifiques qui ont montré et qui ont amené, ces recherches ont amené quand même l'EFSA à reconnaître l'an dernier des incertitudes majeures, je cite, sur les effets nocifs de l'acétamipride.
Et à réduire les doses d'utilisation drastiquement de dire que l'acétamipride sera interdite, de toute façon en Europe, en 2033.
Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre jusqu'en 2033?
Alors,
parce
ça, que
pendant
ce
temps-là, il y a des gens qui consomment, qui consomment la nourriture.
Non. Aujourd'hui, en France, parce que justement, là, on nous dit, mais il y a des gens qui consomment. Alors, si vous consommez des produits traités à l'acétamipride, c'est parce que vous n'achetez pas français. Il n'y en a pas. Depuis 2018.
Oui, mais maintenant, on va pouvoir.
Non. Ben non. Parce qu'il faudra que vous puissiez prouver que vous en avez réellement besoin et que votre filière est en danger.
Mais donc, du coup, ça peut arriver. Ça peut arriver.
Alors, ça peut arriver, oui, parce qu'on a des exemples. Et je vais pouvoir vous en donner. Et si vous me demandez combien d'hectares ça va toucher, par exemple, en France ou même en Sarthe, je vous promets que ça ne va pas faire beaucoup. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Par contre, s'il n'y a pas de solution, parce qu'en clair, la question posée aujourd'hui, elle est là. On peut avoir le courage politique de dire on ne veut pas, par exemple, de noisettes, qui est le cas le plus problématique, si vous me demandez. Ce n'est pas tant la betterave. Et encore, il y a une très belle hypocrisie sur la betterave. Parce que sur la betterave, aujourd'hui, on ferme nos sucreries françaises, d'accord, en un. En deux, on importe de la betterave de Belgique pour faire du sucre à pas cher en France et on supprime les producteurs français. Et tout le monde est content.
Mais il y a des alternatives qui existent justement pour la betterave.
Oui, tout à fait, pour la betterave. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la betterave, c'est pas sûr qu'ils vont avoir cet amipride en 2026, puisqu'ils ont pu s'en passer pendant plusieurs années. Donc, par contre, si on va sur la filière noisette, et on retrouve de la noisette aussi, pas uniquement dans les noisettes sèches, parce que plein de gens me disent bah « oui, mais on peut se passer de la noisette ». Oui, 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 sûrement. C'est juste un choix. Il y a 400 producteurs de noisettes en France. Soit on fait le choix politique et on leur dit « écoutez, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution ». Ils ont une solution alternative, c'est-à-dire que l'acétamipride, puisqu'ils ne l'ont pas aujourd'hui, comment ils ont fait depuis 24-25 actuellement. Ils n'ont pas l'acétamipride. On l'a remplacé par 15 à 17 traitements. C'est-à-dire qu'un traitement d'acétamipride a été remplacé par 15 à 17 traitements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si vous regardez la liste des produits...
Mais est-ce que ces 15 à 17 traitements sont aussi dangereux pour la santé que peut l'être l'acétamipride?
Écoutez, moi ce que je vous invite, parce que je ne suis pas là pour casser, parce que c'est vraiment hyper technique, je ne suis pas là pour casser d'autres filières ou d'autres systèmes ou d'autres modèles agricoles. Ce n'est pas le but du politique. Au contraire, je dis toujours qu'il ne faut pas opposer nos agricultures. Donc, ce n'est pas moi, ici à l'antenne, qui vais le faire. Par contre, si vous me demandez par quoi on remplace l'acétamipride, à titre privé, après, je vous le ferai si vous voulez. Je vous l'enverrai. Et vous allez être surpris. Et vous verrez que des produits d'origine naturelle qu'on utilise, y compris en agriculture biologique, c'est-à-dire y compris nous-mêmes, eh bien, ont les mêmes caractéristiques que ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des produits d'origine naturelle, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas toxiques.
Alors, au-delà de l'impact de la loi Duplon sur la santé des consommateurs, oui. Ses opposants dénoncent donc aussi un important recul sur les normes environnementales. Donc, d'une part, on l'a dit, l'acétamipride qui est toxique pour les abeilles et beaucoup d'autres insectes, mais aussi les méga-bassines qui pourront plus facilement être construites sur des aires jusqu'ici protégées. De même, on pourra plus facilement agrandir ou créer des bâtiments d'élevage intensifs et donc plus polluants. Pourquoi autant de recul sur les normes environnementales, Eric? Martineau.
Alors, ce que vous oubliez de dire, c'est que par exemple, quand même, quand vous parlez des méga-bassines, ça ne traite pas. Il y a un article sur l'eau, le partage de l'eau. Donc, oui, ce qui a été retenu par les médias, c'est uniquement le stockage de l'eau pour les réserves de substitution, qu'on appelle, égale méga-bassine. Mais ce n'est pas ça le texte de loi, l'article 5. L'article 5, il dit que les agriculteurs doivent pouvoir accéder à l'eau, mais comme aussi les industriels. Comme aussi vous, les particuliers. Et ce qui a été mis aussi dans cet article, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit l'agriculture, on ne sait pas si le plus important, c'est, enfin, à aujourd'hui, avant le vote de la loi, est-ce qu'il est plus important d'arroser un hectare de maïs ou de donner à boire aux animaux d'élevage? La loi, aujourd'hui, ne le dit pas. Dans cette loi Duplon, par contre, aujourd'hui, on le dit. C'est-à-dire que le plus important, ce n'est pas les céréales et les prairies. Ce sont les animaux, premièrement. Donc, faciliter les usages de l'eau, comment ça va être facilité? C'est ramener à l'échelle départementale. Et après, si on ne veut pas arroser, ce qui est possible, hein, si la société dit qu'il ne faut pas stocker l'eau, soit, mais il ne faudra pas venir se plaindre après que l'on importe des végétaux, de la nourriture, parce qu'on n'a pas arrosé chez nous. On sait très bien qu'avec le dérèglement climatique, le changement climatique, je ne suis pas du tout un climato-sceptique hein, en plus, on n'aura pas de pluie entre juin et septembre, maintenant en France, globalement.
Enfin, quand même, sur la facilitation des créations de méga-bassines, il faut quand même noter que c'est seulement 15% des exploitants français qui sont des irrigants.
Tout à fait.
Et parmi eux, seuls 1% d'entre eux seront connectés aux méga-bassines. Et ceux-ci cultivent en grande partie des céréales qui sont destinées à l'exportation. Donc, on ne répond même pas ici à l'objectif de souveraineté alimentaire affiché par la loi Duplon. Même chose hein, concernant l'augmentation des seuils pour les ICPE. C'est un régime qui ne concerne que 3% des élevages en France,
tout à fait.
Des grands élevages industriels en fait. Donc on peut se demander, Eric Martineau, alors, à qui elle profite cette loi en fait.
Alors si vous me demandez, alors sur les élevages je vais en parler après, parce que si vous me demandez, ça serait bien que vous interviewiez dans ce cas-là des producteurs de poulets de louer par exemple, parce que nous on est dans la Sarthe, hein, et si vous me demandez quand il y a si peu de gens qui sont touchés, oui c'est vrai, mais après de toute façon vous avez 300 000 exploitations, 400 000 agriculteurs, 68 millions de Français. Donc forcément, ça ne va pas toucher grand monde. Et la question qu'on pourrait se poser dans l'autre sens, c'est pourquoi on n'a pas plus d'agriculteurs? Parce que vous regardez la consommation, par exemple, des œufs. La grande mode aujourd'hui est de manger moins de viande, admettons, mais autant de protéines. Ça peut être des protéines végétales, mais il faut savoir que la consommation d'œufs augmente de 8% par an. 8% par an. Vous imaginez le nombre de poulaillers qu'il va falloir construire pour pouvoir répondre à l'attente des consommateurs. Alors, on n'est pas obligé de les construire, si vous me demandez. Si on n'augmente pas la production en œufs, les prix des œufs vont augmenter.
Je remets juste quelques éléments de contexte pour que les auditeurs puissent bien nous comprendre, parce qu'on parle des ICPE depuis quelques minutes.
Oui.
En fait, ça veut dire que
les installations classées pour l'environnement.
Exactement. En fait, les seuils à partir desquels les élevages sont considérés donc comme des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, ces seuils ont augmenté. Ça veut dire qu'une fois qu'un élevage a atteint ce seuil, certaines contraintes sont mises en place pour limiter.
Un seuil français, c'est pas le seuil européen.
Un seuil français qui est mis en place pour limiter son impact écologique. Mais désormais, donc, un poulailler ne devra demander une autorisation d'agrandissement qu'à partir de 85 000 poulets contre 40 000 jusqu'alors.
Oui.
Un élevage de porc pourra atteindre 3 000 cochons
au
lieu de 2 000.
Ce qu'il faut dire, c'est que le 40 000 est français. 85 000, c'est européen.
Donc, la France a récemment été condamnée pour la mort d'un jogger provoqué par des algues vertes, une pollution qui est liée à l'élevage industriel de porc. On ne peut pas prendre ça en considération, quand même,
si.
Ces risques-là.
Mais je ne vous dis pas que c'est bien. Moi, je ne vous dis pas que c'est bien, mais... Comprenez la colère des agriculteurs qui, en clair, là aujourd'hui, tous les œufs à pas cher qu'on trouve dans nos magasins, ils viennent d'où? Si vous regardez, d'où est-ce qu'ils viennent? Là, ça choque personne. Qu'on fasse venir du poulet du Brésil, des œufs ukrainiens, ça, tout le monde ça trouve ça complètement normal. Si on regarde les conditions d'élevage et ce que vous mangez, ça n'a rien à voir, même avec, je ne vais pas dire les marques, mais un poulet premier prix français. Et là, aujourd'hui, ce que la société... Alors après, c'est un choix sociétal. Si les gens disent qu'ils ne veulent pas que l'on produise comme en Europe, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, moi, je suis contre les importations. Parce que d'interdire en France et d'importer ce qu'on ne veut pas produire, moi, personnellement, c'est de la pure hypocrisie.
Alors, en tout cas, vous parliez de colère des agriculteurs, Eric Martineau. Il faut noter que tous les agriculteurs ne suivent pas cette loi.
Tout à fait.
En tout cas, le syndicat de la Confédération paysanne a exprimé son opposition à la loi Duplomb.
Oui.
Pour Thomas Guibert, porte-parole du candidat, cette proposition de loi ne répond pas aux attentes du monde agricole. Ce texte ne bénéficiera qu'à une poignée de très gros agriculteurs, toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux notamment qui dirigent la FNSEA. Les opposants au texte suspectent en effet une très grande influence de la FNSEA, le syndicat agricole dont les positions s'accordent à celles des grandes exploitations industrielles. Notons d'ailleurs que Laurent Duplomb, le rapporteur de la loi, est un ancien président FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Est-ce que vous comprenez cette colère de la part de l'agriculture paysanne, ce sentiment d'avoir été oublié par la loi?
Alors, oublié, non, parce qu'ils vont être concernés, ils sont concernés par cette loi. C'est là que je ne suis pas d'accord.
Les grandes mesures de facilitation, elles concernent quand même principalement les grands
exploitations industrielles. Oui, mais alors toutes les mesures environnementales pour prendre, parce que ça, on n'en parle pas dans la loi, mais je vous invite à lire la loi. Toutes les mesures de contrainte pour pénaliser que les agriculteurs soient à la Confédération paysanne ou à la FNSEA, quand ils vont pour les atteintes aux végétaux et taper à 150 000 euros d'amende, tout le monde va être concerné. Ce n'est pas une question de petits ou gros producteurs. Et est-ce qu'un agriculteur sartois qui a un poulailler de 40 000 volailles qui va en demander pour augmenter, passer à 60, voire 80 ou 85, est-ce que c'est un gros producteur? Est-ce que c'est un agriculteur industriel? Je vous parle des Sartois. Moi, je suis pas du. Moi, je suis dans le réalisme, hein, dans ceux qui nous ont contactés. Et vous voyez, je ne vais pas donner de nom, mais à titre de député, j'ai des agriculteurs qui sont à la Confédération paysanne, qui sont contre l'irrigation. Par contre, quand ils ont eu besoin d'eau parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau, ben, en fin de compte, je suis intervenu pour qu'ils aient accès à l'eau. On ne peut pas dire la façade, on est contre l'irrigation, et quand on en a besoin... moi, j'appelle le directeur de la DDT parce qu'il faut que les gars puissent se brancher. Et je l'ai fait, je vous rassure.
Et alors, vous constatiez tout à l'heure le fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France.
Oui.
C'est vrai qu'entre 2010 et 2020, la France a perdu 101 000 exploitations agricoles en raison notamment du coût des installations, de la faible rémunération, mais aussi du changement climatique.
Oui. Et aussi des contraintes.
Et à contrario, les grandes exploitations s'agrandissent sur cette même décennie et sont passées de 55 hectares à 69 hectares.
Oui.
Vous ne pensez pas que la loi Duplomb, elle ne risque pas tout simplement d'accentuer et d'accélérer cette tendance, Eric Martineau? Parce qu'en fait, elle ne répond pas au principal problème des agriculteurs, à savoir le revenu, le coût des installations.
Alors si vous me demandez, si. Là, sur l'histoire du revenu, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Demandez à ceux qui sont en filière, qui vont être touchés, par exemple, qui n'ont pas accès à l'eau, qui ne peuvent pas accéder justement à la construction, alors que ce soit d'une réserve collinaire ou d'une réserve de substitution. Parce que sur les réserves de substitution, on pense tout de suite à Sainte-Soline. Mais on oublie que par exemple, dans le nord de la France, il y avait de la flotte, les gens ont eu les pieds dans l'eau. Alors, ce n'était pas l'hiver dernier, c'était il y a un an ou il y a deux ans. Mais là, les gens, ils auraient apprécié d'avoir des réserves de substitution et des bassines pour pouvoir pomper cette flotte qui était en excès, pour pouvoir la stocker. Ça n'a pas été fait. Il y avait 14 agences pour pouvoir régler le problème de l'eau. Alors, si on dit qu'il ne faut rien faire, il faut laisser faire. Moi, je veux bien.
Mais est-ce que ce manque de revenus, plus qu'à des difficultés de production, oui. Il n'est pas dû plutôt à la part qui revient à l'agriculteur à l'achat du produit ?
Si, de toute façon, cette loi ne règle pas tous les problèmes en agriculture. Hein. Là-dessus, moi je l'ai dit à la tribune ce mardi, c'est vrai qu'il n'y a pas sur la définition du prix, le partage de la valeur, on ne parle pas du prix payé aux producteurs. Donc là-dessus. Mais par contre, dites à les 400 producteurs de noisettes, hein, s'ils n'ont pas de solution technique à leur apporter et que donc ils auront zéro récolte. Là, si vous me demandez, j'ai été appelé au secours par un producteur de pommes dans les Deux-Sèvres, qui a 7 hectares de vergers ravagés par les pucerons parce qu'il n'y a pas de solution. 7 hectares. Donc, il va perdre environ 600 tonnes de pommes, on va dire 600 tonnes. 600 tonnes, même à 80 centimes, 6 x 8,48, ça veut dire qu'il va perdre 500 000 euros, l'agriculteur. Alors, c'est pas le revenu, hein, c'est le produit brut de l'entreprise et ça fait vivre du monde derrière. Et ben, de dire qu'il n'y a pas de solution et que vous allez mourir tranquille et qu'on ne va rien faire pour vous, et pendant ce temps-là, on va importer des pommes d'Italie ou de Pologne pour remplacer, parce qu'eux, ils peuvent traiter à l'acétamipride, par exemple. Bah écoutez, moi, je veux bien...
Et passer plutôt par des méthodes qui peuvent restaurer la biodiversité.
Tout
est-ce
à
que
fait.
Ce ne serait pas une autre voie envisageable?
Mais complètement. Mais l'un n'est pas sans l'autre. Et c'est pour ça que ce qui est faux de dire, c'est qu'on va réautoriser l'acétamipride. Oui, dans deux conditions. C'est-à-dire que votre filière n'a pas la possibilité de faire autrement et vous êtes en capacité de démontrer que votre filière va couler, va s'éteindre en France parce que vous n'y aurez pas accès. Et là, ce qui est même conditionné aussi, il y a une troisième condition, c'est que vous avez obligation de démontrer que vous faites de la recherche pour faire autrement, pour pouvoir vous en passer. Puisque de toute façon, en 2033, il n'y en a pas. C'est fini, ça s'arrête. Et donc, aujourd'hui, dans cette loi, parce qu'il y a plein de choses, il y a aussi l'indépendance de l'ANSES. Sachez qu'au début, dans la loi Duplomb, elle était remise en cause.
Effectivement, ça a été revu après sur les versions suivantes.
Mais moi, le premier, je m'y suis opposé. Moi, je dis que si en 2018, on avait écouté les scientifiques, mais on n'aurait pas le problème aujourd'hui.
À quelle décision des scientifiques vous faites référence?
Eh bien, l'acétamipride. L'ANSES, en 2018, allez sur le site. Moi, je vous conseille, les auditeurs, allez voir, c'est facile. Vous avez un site, le site de l'ANSES, ça s'appelle EPHY.fr, EPHY.fr. Vous tapez toutes les molécules que vous voulez, vous regardez toutes les dangerosités, vous voyez par filière, par produit, j'invite les auditeurs à le faire et d'aller voir l'affiche donc de l'acétamipride sur le site de l'ANSES, c'est pas moi qui le dis, c'est l'affiche de nos scientifiques français et de voir par quoi on l'a remplacé et vous allez être surpris.
On arrive à la fin,
oui,
Éric Martineau.
Je suis désolé, parce que je suis bavard.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous expliquer votre point de vue donc, sur la loi Duplomb qui a donc été adoptée définitivement le 8 juillet à l'Assemblée nationale. Et donc Éric Martineau, on le rappelle, vous êtes député de la 3e circonscription de la Sarthe, élu Modem au sein du groupe Les Démocrates. Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.